Alors, ce matin, un message de circonstance, quelque chose à célébrer. Et le texte qu'on va lire au tout début est dans Jean 19, le verset 30. Ça dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. » Là, je sais, présentement, dans votre tête, vous vous dites « OK, dans ton ordinateur, tu n'as pas pris le bon message, Johnny. Ce n'est pas Vendredi Saint. » C'est quoi le rapport de Jésus meurt puis il y a quelque chose à célébrer? Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas lourd. Mais en fait, justement, ici, ça nous dit que Jésus a tout accompli. Et c'est, en fait, ce moment-là où on pense que c'est un moment dramatique, et pour les gens qui étaient autour de lui, pour les disciples, pour ses amis, pour ses proches, c'était un moment dramatique, mais les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui venait de se produire. Mais en fait, dans Éphésiens 2, les versets 4 à 7, ça nous l'explique. Ça dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là où tout est accompli, que Jésus a rendu l'âme, c'est que Jésus nous a fait grâce. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est justement ça. On célèbre la grâce de Dieu depuis 17 ans. C'est ça qu'on fait. On célèbre la grâce de Dieu depuis 17 ans. Et c'est ce qu'on veut continuer de faire dans les prochaines années. J'ai décidé de retourner un peu en arrière, j'ai fouillé dans mes archives de photos, et je me suis replongé il y a 17 ans. Et là, je me suis rendu compte que je n'ai pas toujours eu la barbe blanche. C'est ça que j'ai noté, là. Ça fesse, ouais. Et là, je me suis remémoré, je suis retourné dans le temps. La première fin de semaine de septembre 2005, au centre-ville, lorsqu'on a ouvert Mosaïque. Et pourquoi on a ouvert Mosaïque? C'était pour faire connaître la grâce de Dieu aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, attention, ça part. Ça, c'est pas mal la première photo, l'embryon de Mosaïque, c'est cette photo-là. Dans le café rencontre, il n'y a même pas, les murs n'étaient pas là, en arrière, en fait, c'est la friperie qui est là présentement. Et là, on est dans la soupe populaire, pasteur Michel et moi, et on est dans les premières discussions. Le café rencontre vient de faire l'acquisition du bâtiment, et on est dans les discussions de « et s'il y avait une église au centre-ville? » C'est comme ça que ça a commencé. Les discussions entre pasteur Michel et moi. Ça, c'est la vue de l'église le dimanche matin. C'est le fun, hein? Accueillant. On arrivait du stationnement, puis ça, c'est le bâtiment, là. Vous voyez comment ça a changé? Et la porte à gauche, c'était que la rue était couverte, c'est un mail couvert, et on rentrait par les toilettes. Ça sentait, désolé le mot, mais en bon québécois, la pisse. Fait que dans le fond, le hall d'entrée de l'église, c'était une toilette qui sentait mauvais. C'était très accueillant. C'est quand même pas si pire parce qu'on est ici aujourd'hui. Et ça, c'est que lorsqu'on a acheté le Café Rencontre, on a acheté le bâtiment, la salle telle qu'elle était là, pas de chaise, rien, le fond est en miroir. Et je pense à remettre des miroirs ici. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu regardes le miroir, tu es obligé de louer Dieu. Ben sinon, tu sais que tout le monde te voit. C'est un avantage. C'est un avantage. Je n'ai pas vu venir celle-là, hein, mais c'est quelque chose. Quand tu chantes en avant et tu regardes tout le monde, tu dis « Ah, lui, non, mets pas ton doigt, non, pas là. » Et des années plus tard, c'est une belle photo. La salle était remplie, la salle était pleine, et c'est une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui. Et à travers ça, on a eu pendant, je crois, 6 années, on a ouvert un campus à l'université pour les étudiants. Et il y a des étudiants, il y en a qui sont à Mosaïque aujourd'hui, mais que leur première rencontre de Mosaïque s'est faite à l'université. Quand même. Et ça, c'est quand on a commencé à louer après la messe le dimanche matin. La messe terminait, les gens, on saluait les gens qui quittaient, on venait, on ouvrait notre troisième campus ici. Et on faisait une réunion de fin d'avant-midi. Et vous voyez que ça a changé l'hôtel et tout. Les statues, c'est fantastique. C'est fantastique. Et ça, c'est lorsqu'on a, on a commencé les rénovations, quelle aventure! Tu sais, des fois, il y a des choses dans ta vie, tu dis, ça, je ne referai pas ça. Ça, je ne referai pas ça. C'est assez clair. C'était semi-kamikaze, notre affaire. Et juste regarder, ça, c'est fou, c'est le sous-sol en bas, quand on a acheté. Et vous irez faire un tour, vous n'avez pas vu le sous-sol, comment il est aujourd'hui, tout ce qui a été fait, les rénovations, tout, un énorme merci à tous les gens, à tous les bénévoles qui ont donné, et on a travaillé fort, là, mais on a travaillé fort. Mais Mosaïque aussi, c'est justement le sous-sol et tout ça, c'est pour permettre que les enfants aillent l'église eux aussi. Mosaïque, c'est Mos Junior aussi. Mosaïque, c'est la jeunesse, c'est les ados. Mosaïque, c'est les groupes éléments. Mosaïque, c'est le communautaire. Et une des bénédictions d'avoir ce bâtiment-là, c'est que pendant le COVID, on a pu continuer à être impliqué dans la communauté, même si le dimanche matin, on ne pouvait pas s'assembler ici. Et ça, c'est, j'adore cette photo-là. Ouais. Quand je suis tombé dessus, je dis, il y avait l'autre photo, là. Tu sais, la photo où on a l'air d'un, on est enligné sur, bien cordé en ligne à côté sur un mur de briques. On a l'air d'une une vieille photo d'un un album de Led Zeppelin. C'était pas bon. Non, c'était pas bon. Mais celle-là, elle représente bien l'équipe du début de Mosaïque. Le pasteur Jérémy, justement, qui était ici ce matin, qui fait qui jouait de la guitare. Pasteur Maxime, pasteur Michel et moi-même. Et là, l'équipe, elle a changé. Et on a Cathy, Emmanuel et Julien qui sont là. Et pour toutes ces personnes-là, et tous les gens qui étaient là il y a 17 ans. Il y a des gens qui étaient... Qui était là il y a 17 ans, quand on a ouvert? Avec toutes les autres, là, c'est du nouveau. Mais il y a des gens que vous étiez là du début. On vient justement de parler d'honorer Lucie, mais il y a des gens comme ça qui, depuis le début, sont là, qui donnent, qui investissent, qui croient, qui ont cru avant même qu'on soit... Et imaginez, quand tu vois le bâtiment, la salle avec des miroirs, avec des chaises dépareillées, c'est pas vraiment évident pour dire, « Ouais, je pense que ça va le faire. Ça va être le fun de faire l'église ici. » Il y a des gens qui avaient vraiment la foi, je vais vous dire, là. Moi, le premier. Dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, ça dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En fait, on célèbre la grâce de Dieu depuis 17 ans, et on ne peut pas rien faire, on peut pas, si aujourd'hui tu es ici et tu cherches Dieu, tu n'es pas trop certain, la chose que je peux te dire, c'est que tu ne pourras pas par tes propres forces atteindre Dieu. Tu ne peux pas par tes propres forces aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, ce n'est pas parce que tu fais du bénévolat, ce n'est pas parce que tu donnes épouvantable, ce n'est pas parce que, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas atteindre Dieu. Tu ne peux pas arriver et dire, ben moi, voici, j'ai, tu sais, en bon québécois, on dit ça, je vais gagner mon ciel. Ça ne se gagne pas, un ciel. Parce qu'en fait, quand Jésus a dit, tout est accompli, c'est ça qu'il a fait pour nous. C'est lui qui a gagné notre ciel à notre place. Mais en fait, après ça, on peut pas atteindre Dieu puis juste faire des choses pour plaire à Dieu, mais ça dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes, pas pour qu'on gagne notre ciel, mais juste pour qu'on les pratique, pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, pour que d'autres personnes soient bénies. Et en fait, c'est ça qu'on fait depuis 17 ans. C'est de juste pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dans Luc 7, les versets 27 à 32, ça dit, « Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » En laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et ici, il y a deux choses dans ce passage-là, justement, qui a rapport avec Mosaïque. Le fait que Jésus est venu pour les gens qui avaient besoin de lui. Pour les gens qui... Des fois, on est malade et on ne sait pas qu'on est malade, mais il y a un paquet de gens qui sont malades. Et une des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, c'est que du jour 1, nos portes étaient ouvertes pour n'importe qui passait sur la rue et qui entrait. N'importe qui était bienvenu de venir prendre un café. N'importe qui était bienvenu de venir, de s'asseoir, et que tu crois ou non, c'est pas grave, tu es à la bonne place. Et c'est pour nous, il faut que ce soit encore ça pour nous. Peu importe ton arrière-plan, peu importe ton background, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait ou pas fait dans la vie, peu importe ton compte de banque, peu importe d'où tu viens dans le monde, tu es le bienvenu. Tu es bienvenu de t'asseoir, tu es bienvenu d'écouter, tu es bienvenu d'entendre, tu es bienvenu de participer. Mais là, je vais rendre ça un petit peu plus personnel. Vous dites, OK, là, tu parles de mosaïque, tout ça, puis pour certains d'entre vous, c'est comme, ah, OK, j'étais pas là, moi, il y a 17 ans. Mais est-ce que tu as quelque chose pour moi ce matin? Mais en fait, dans ce passage-là, il y a quelque chose d'important. Jésus, lorsqu'il vit, a vu Lévi, il a juste dit, suis-moi. Et Lévi, qui est devenu Matthieu, s'est levé et a suivi Jésus. Parce qu'en fait, c'est beau d'avoir une vision, c'est beau d'avoir des projets, c'est beau d'avoir des trucs, mais tant que ça reste sur papier, tant que ça reste dans la tête, c'est juste un rêve. Et dans notre vie, c'est la même chose. Il y a tellement de choses, des fois, qu'on se dit, « Ah, moi, voici ce que je voudrais changer dans ma vie » ou « Voici ce que je voudrais être rendu dans 5 ans. » Mais tant que ça reste sur papier, tant que c'est juste une discussion de coin de table puis qu'on ne fait rien pour ça, on ne met pas un pas en avant, il ne se passera rien. Et Matthieu a eu le courage de se lever puis de dire, « Je vais suivre Jésus. » Juste un instant, pour nous, c'est banal ce texte-là, mais juste comprendre que, imaginez un instant qu'il y a quelqu'un qui frappe à votre porte cet après-midi, vous ne le connaissez pas, et il vous dit, « Hey, suis-moi. » Qu'est-ce que vous allez faire? On va dire, « Va vendre des crayons ailleurs. » Oui, « J'ai pas besoin de chocolat. » Je te suis, je te connais pas. Il n'y a personne qui va faire ça. Mais Matthieu a eu le courage de dire, OK, je vais suivre cet homme-là. Et il n'y avait pas de garantie, là. Même s'ils ont entendu parler, oh, peut-être, c'est le gars qui fait des miracles, OK. Mais même moi, là, si quelqu'un débarque chez nous et dit, je fais des miracles, je ne suis pas sûr que je vais tout laisser et je vais partir pour le suivre, là. Mais il y a quelque chose ici. Dans un moment, dans un instant, c'est le moment entre j'ai des rêves, voici ce que je veux changer, voici les beaux discours. Là, on est dans une période électorale. Puis là, tout le monde promet toutes sortes de choses. C'est pas nouveau, là, c'est ça les élections. Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Tout le monde promet quelque chose. Mais c'est sur le terrain que ça va jouer. Puis on va voter sur des gens qui nous promettent quelque chose, puis ça se pourrait que ça n'arrive pas. Mais le moment où on décide de faire quelque chose, le moment où on décide de faire un pas, c'est là qu'il se passe quelque chose. Owen McManus a dit, si vous saviez qu'à quelque part devant vous, il y a un moment qui pourrait changer votre vie pour toujours, un moment riche en potentiel, un moment rempli de possibilités sans fin, et si vous saviez qu'il y a un moment qui s'en vient, un moment divin où Dieu veut vous rencontrer d'une telle façon que rien ne serait plus pareil, comment traiteriez-vous ce moment? Comment vous prépariez-vous pour cela? Comment vous l'identifieriez, ce moment-là, le moment où Matthieu a décidé de suivre Jésus, ça a changé sa vie. Il aurait pu décider de rester assis. Il aurait pu dire, reviens dans un an, on va voir là, on va voir comment ça va tes affaires, puis si ta business va bien, je vais peut-être me joindre. Il y a ce moment-là où il y avait une décision à prendre. Lorsque ce désir-là, ce rêve-là, cette vision-là est née de voir une église au centre-ville de Québec, ça aurait pu, aujourd'hui, on pourrait ne pas être assis ici, puis on pourrait juste en discuter encore. Ah, ça serait une bonne idée, ouais, ça serait, ah, puis on pourrait faire ça, puis on pourrait, hey. Mais pour que ça se fasse, il y a un moment de décision, le moment qui change tout, le moment où tu mets un pas en avant. Et c'est intéressant parce que le mot « moment » en grec est le mot « atome », d'où provient « atome » et « atomique ». Et « atome », c'est la plus petite des particules, mais si elle n'est pas là, le reste n'existe pas. Et des fois, ce moment-là, comme le moment de Matthieu, c'est le moment où C'est juste une fraction de seconde. C'est juste il n'y a pas eu de délai. C'est comme, qu'est-ce que suis-moi? Et à ce moment-là, c'est le moment où il y a le potentiel de se passer rien ou que ça devienne atomique. Et dans nos vies, c'est la même chose. Dans nos vies, il y a des moments où on doit prendre une décision. On doit choisir. On doit dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, c'est plus juste d'en parler. Là, je vais faire, je prends une décision, voici l'action que je prends. Et c'est là qu'il y a le potentiel que ça devienne un moment qui change ma vie pour toujours. Un moment qui va faire toute la différence. Et ce moment-là, en 2005, on a décidé de ne pas juste avoir un beau projet, de ne pas juste en discuter avec quelques personnes, de dire, on va le faire pour de vrai. On va démarrer ça. Et même si c'était complètement imparfait, ceux qui étaient là, on avait décidé de servir du café. Puis on s'est fait reprocher de servir du café par je ne sais pas combien de personnes. Il y a combien de personnes qui ont dit, on n'est pas sûr si c'est une église. Mais ce matin-là, là, on avait toutes nos petites cafetières. On n'avait pas la grosse affaire industrielle. Là. On avait des cafetières de maison, on avait 4-5 de branchés un peu partout. Puis ça prend du gaz, si vous ne saviez pas. Là, quand on a une chez vous, c'est bon. Mais quand on plug 4-5 sur le même breaker, ça saute. Fait que il n'y avait plus de lumière, plus de son, plus d'image, là. Genre 15 minutes avant que la réunion commence. Parce qu'on a branché trop de cafetières. C'était super génial. Ce matin-là, on avait dit, hey, invitez des gens, puis peu importe d'où ils viennent, peu importe c'est quoi leur background. Mais il y a du monde qui ont pris ça au mot. Et il y a des gens de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les inimaginables qui ont débarqué. Et je me souviens ce matin-là, j'étais en train, tu prêches ton premier message. Puis là, tu es juste comme fébrile, il y a des gens dans la salle. Et pendant que tu es en train de dire justement que Jésus est venu pour te faire grâce puis qu'il est mort sur la croix, il y a un monsieur, il est 10h30 le matin, il est encore chaud et raide la veille. Il me dit, « Hey, toi, là, moi, je crois pas à ça, ce que tu dis. » Ça commençait bien. On était parti. Là, c'était comme, « Wow! » Et je me souviens que ce matin-là, je suis arrivé chez nous, j'étais à lessiver, vidé raide. J'avais plus de gaz pantoute, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais l'impression qu'il y a un train qui m'était passé sur le corps. Mais on aurait pu rester chez nous. On aurait pu continuer d'en discuter. On aurait pu faire un beau site Internet. On aurait pu faire de la belle documentation, puis assez de « puis on va remettre ça plus beau encore ». Mais on a juste décidé de le faire. Il n'y avait rien de parfait. Mais c'est ce moment-là où tu prends une décision et que tu t'assumes, puis là tu fais, c'est ça que je vais faire. C'est là que le potentiel, que l'atome du moment devient atomique. Et dans nos vies, c'est la même chose avec Dieu. On peut discuter de Dieu, on peut discuter de la foi, on peut discuter de, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses que tu rêves dans ta vie d'apporter des changements, mais tant que tu ne prends pas une décision, ça va juste rester une discussion. Et une discussion, ça ne change rien. Ça prend une action de la même façon que Matthieu a décidé de suivre Jésus. Ce moment-là d'atome qui devient atomique. Le pouvoir d'un moment crée une source immesurable d'opportunités et d'espoir. Peu importe quelle sorte de vie tu vis, peu importe combien de mauvais choix tu as fait, le prochain moment attend de donner naissance à une nouvelle vie. Wow! Et c'est exactement ça avec Jésus. La journée où on décide de suivre, la journée où on décide, OK, je vais te faire confiance. C'est ce moment-là où notre vie peut changer. Et peut-être aujourd'hui, ça fait des années que vous suivez Jésus. Puis vous dites, ben moi, je l'ai déjà, ma nouvelle vie. Mais là, il me semble qu'il y a telle affaire. Et on pense que c'est un moment qui est arrivé une fois dans notre vie. Mais d'avoir une nouvelle vie, de passer une autre étape dans notre vie, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être le moment que je décide maintenant, le moment que je décide de faire confiance à Dieu encore, le moment où je vais faire un pas de foi, parce que ça fait peut-être des années que je n'ai pas fait de pas de foi dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, quand on est croyant, c'est facile de se mettre sur le cruise control. Quand ça fait des années, on sait comment ça marche. Nous, on sait comment Dieu pense. La Bible, je l'ai lue assez de fois. Pas de surprise. Puis là, je me suis bien installé dans ma foi. J'ai tout mis, mes pions sont tous bien placés. Puis là, je me mets sur le pilote automatique. Et là, il n'y a plus de pas de foi. Là. Mais peut-être que ce matin, c'est un moment pour vous de refaire un pas de foi dans votre vie. C'est peut-être le moment de dire, je veux que ce moment-là, de prendre une décision. Peut-être qu'il y a des choses que vous laissez en arrière depuis des années, que vous pelletez, vous avez mis peut-être des rêves, des choses qui, pour vous, sont importantes, de dire, ça sera plus tard. Puis vous avez mis ça bien haut dans l'étagère, puis là, la poussière s'accumule, puis là, vous faites comme, j'y pense pas, et peut-être que même, à un moment donné, tu fais comme, ouais, c'est vrai, mais un moment donné. Mais peut-être ce moment donné-là, c'est aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Esther 4, j'aime beaucoup ce passage-là, les versets 13 à 14, ça dit « Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et s'il y a ce moment-là, les Juifs sont captifs à Babylone, et là, il y a une conspiration. Ben oui, il y avait des conspirationnistes dans ce temps-là aussi. Et il y a une conspiration pour faire un génocide. On va enrayer les Juifs. Et Esther se retrouve reine, elle qui n'a rien à voir avec ce peuple-là, mais c'est elle, les Juifs, elle se retrouve là. Et là, c'est pas quoi faire, elle pognée là-dedans. Et là, Mardoché arrive et lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu as le choix. Présentement, tu dois décider. Tu dois décider qu'est-ce que tu vas faire. Et là, c'est à ce moment-là que Dieu a appelé. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas que en Babylonie, la technologie était avancée. Bon, je reviens. Désolé, c'est mon petit écart. Mais à ce moment-là, il y a ce moment-là, cet atome-là, où Mardoché va dire, si tu te tais maintenant, puis si tu penses que parce que toi, tu es sous ton cruise control, que toi, tu es dans le château, tu es la reine, puis que tu te tais, puis tu fais comme, c'est plate, le peuple va mourir, mais au moins, je vais sauver ma peau, puis ma famille. Mardoché dit, t'es juif, ils vont savoir, toi aussi, tu vas mourir, c'est pas parce que tu es la reine. Fait que toi aussi, si tu fais rien, tu vas y passer comme tout le monde. Et à ce moment-là, le sort du peuple juif détenait à un moment, un instant, une décision. Et la phrase tellement puissante que Mardoché va dire à Esther, « Et si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amené à la royauté? Et si ce n'était pas un hasard? Et si c'était voulu? Et si maintenant, justement, tu ne comprenais pas pourquoi tu étais placé là? Il n'y a rien qui faisait du sens. Pourquoi je suis devenu reine? Pourquoi moi? Puis j'ai rien fait de spécial. Je sais pas, je me retrouve. Puis là, je suis là. Mais c'est quoi le rapport? Bien, il y en a un rapport. Parce qu'aujourd'hui, le fait que, étrangement, tu te sois rendu où tu es là, c'est peut-être pour sauver le sort de l'humanité. Je veux dire, exagère pas, c'est le sort de l'humanité. Mais à ce moment-là, s'il y a un génocide, juste essayer de... On réfléchit, là, on voit. S'il y a un génocide, il n'y a plus de Juifs. Plus de Juifs, ça veut dire quoi? Pas de Jésus. On dirait que c'est un film de Marvel, cette affaire-là. Non. Cette femme-là, elle avait, dans un moment, dans un atome, dans un instant, le pouvoir de sauver l'humanité. Une décision. Et des fois, on minimise les décisions. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous vous mettiez en question à chaque jour à savoir la chemise que je mets, si tu la bleue ou la noire, là. Qu'est-ce que je vais manger à midi? C'est pas compliqué, des hot dogs. Je vous règle ça. Je vous enlève une question. Mais on est confronté à chaque jour à des décisions, puis des fois on prend des choix banalement, sans réfléchir ou sur le pilote automatique. En pensant que ça n'a pas d'incidence, mais oui, ça peut avoir toute une incidence. Un moment, une décision peut scraper ma vie ou peut, au contraire, me donner un nouvel élan, ouvrir une nouvelle porte, me donner une nouvelle vie pour certaines personnes. Ça peut être ça. Un moment, un instant, une décision qui, d'un bord ou de l'autre, peut être aussi dramatique que quelque chose à célébrer, ce moment-là peut devenir atomique dans nos vies. Il y a 17 ans, il y a des gens qui ont décidé de prendre le risque. Parce qu'en fait, je termine avec cette citation, « Pour avoir quelque chose à célébrer, il faut savoir risquer. » Sans le risque, il n'y a rien à célébrer. Parce qu'on est sur le pilote automatique. Il n'y a rien qui va se passer, rien qui va bouger. Et des fois, c'est ça qu'on aime. Parce qu'on veut pas, on veut pas risquer. Ça fait peur. Mais s'il n'y avait personne qui avait risqué, si on n'avait pas risqué il y a 17 ans, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Si Esther n'avait pas risqué d'aller voir le roi et de peut-être perdre sa vie, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si Matthieu, Pierre, Jean n'avait pas risqué de suivre Jésus, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas risqué de venir sur la terre donner sa vie pour vous, pour moi, et nous faire grâce, on ne serait pas ici aujourd'hui. Et c'est la même chose pour nous. Si on ne risque pas, il n'y a rien à célébrer. Et s'il y a une chose qu'on doit retenir pour les 17 prochaines années, c'est qu'il faut encore être capable de risquer. Il faut être encore capable de faire des pas de foi. Il faut être encore capable d'avoir le courage de se lever et de faire le pas nécessaire, de prendre la décision, de faire le choix dans nos vies personnelles et pour l'Église. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut te reconnaître. On veut te remercier pour les 17 années qui viennent de passer. Qui aurait cru qu'on serait là 17 ans plus tard, ici, dans ce lieu, d'avoir fait l'acquisition de ce bâtiment-là, d'être présent dans la communauté, d'accueillir encore des gens, semaine après semaine. Merci Seigneur pour toutes les gens qui ont cru du début, qui ont investi, qui ont donné, pour l'équipe qui était là au départ et la nouvelle équipe qui est là. Merci pour l'héritage que, Seigneur, on laisse, et l'héritage qu'on va laisser dans les prochaines années. On veut être reconnaissant, Seigneur. Et on te prie que tu viennes, Seigneur, de la même façon que tu es venu vers Matthieu, mais que tu viennes dans nos vies. Challenger notre foi. Nous redonner le goût de risquer et de voir qu'est-ce que tu vas faire, toi. Parce que peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci qu'on est, que nous sommes là où nous sommes présentement dans nos vies. Et qu'on ne reste pas, Seigneur, sur le pilote automatique, mais qu'on puisse encore oser risquer et avancer par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant de célébration. Et tout de suite après, je reviens pour faire les consignes pour la suite.